les textes bibliques que nous venons de proclamer sont porteurs d'une parole que Dieu veut nous adresser dans le contexte tragique que notre pays connaît depuis vendredi dernier. Cette parole nous invite à aller au-delà de notre émotion ou de nos sentiments d'indignation et de colère. Cette parole veut nous aider à discerner dans la réalité éprouvante qui s'impose à notre pays le sens profond de ce qui nous est donné de vivre ces jours-ci dans notre communauté nationale. Nous ne cherchons pas dans la parole de Dieu, au risque d'être fondamentaliste, des réponses toutes faites aux légitimes questions qui se posent sur la sécurité et la protection des citoyens exposés au risque d'un fanatisme meurtrier dans lequel des individus trouvent des raisons d'engager toute leur énergie pour se livrer à une haine aveugle et, il faut le dire, une volonté farouche de détruire notre civilisation. La parole de Dieu éclaire surtout la démarche qui nous rassemble ce soir. Nous sommes venus faire mémoire des trop nombreuses victimes de ces actes odieux. Une commémoration, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un mémorial. La mémoire ne fait pas que nous reporter dans le passé. Elle rend présent aussi ceux qui l'habitent. Les personnes disparues ne sont pas anéanties. Elles n'existent pas seulement par leur avis de décès, mais nous croyons qu'elles vivent en présence de Dieu. C'est là notre foi. C'est ce moment du passage en Dieu que nous voulons accompagner de notre prière. Le jugement dernier évoque l'évangile de Matthieu et la mémoire de ce que chacun a vécu de beau, de neuf, de solide durant son existence terrestre. Les paroles de Jésus révèle que la valeur d'une vie se situe d'abord dans la capacité à nous ouvrir aux autres pour les aider, les servir, les aimer. Ces gestes et ces attitudes à l'égard des autres se vivent dans la simplicité quotidienne d'un accueil, d'une aide, d'une visite amicale, d'un don pour répondre à des besoins vitaux tels que se nourrir, se désaltérer, se vêtir, s'habiller. Les paroles de Jésus révèlent aussi que dans ces gestes fraternels, tout simples, à l'égard des autres, des plus petits, c'est dans ces gestes que se construit notre relation personnelle avec nous. Dans le visage du petit, c'est le visage du Christ qui se laisse découvrir. Et la mise en œuvre de notre capacité d'aimer les autres nous fait déjà accueillir le royaume de Dieu qui nous est promis au terme de notre existence terrestre. Il est banal de dire que notre société aujourd'hui a une tendance à occulter la perspective de la mort. Lorsqu'on l'envisage, on la souhaite soft, légère, passant même inaperçue. L'émotion qui vous étreint depuis quelques jours tient en partie au fait que la mort est frappée brutalement, sans crier gare. Elle a emporté des personnes, souvent jeunes, alors qu'elles profitaient d'une soirée de détente pour écouter un concert, ou d'un moment d'amitié partagé à la terrasse d'un café ou une table de restaurant. C'est le non-sens absolu de la mort qui nous arrive en plein visage. Pourtant, nous sommes invités ce soir à offrir davantage que notre compassion à la douleur des familles qui ont perdu un de leurs membres. Nous avons aussi la responsabilité de témoigner par notre rassemblement de l'espérance qui vient de notre foi au Christ, mort et ressuscité. La mort n'est plus le mur sur lequel l'existence humaine se fracasse. Jésus a ouvert définitivement une brèche dans ce mur. Il y est passé. Et ressuscité, il atteste du sens nouveau de la mort humaine. Elle n'est plus un non-sens, elle est passage vers une vie éternelle en Dieu. Le drame vécu par les familles qui voient disparaître un ou plusieurs de leurs membres ne peut donc manquer de nous interroger sur notre façon de regarder notre vie et notre mort, la vie et la mort des autres. Sommes-nous enfermés dans une immanence de notre existence, absorbés totalement par nos activités, nos préoccupations matérielles et immédiates, au point de ne plus pouvoir aborder la mort que comme un non-sens, insurmontable et scandaleux? Si nous sommes venus ce soir pour prier pour les victimes des attentats qui endeuillent notre communauté nationale, est-ce simplement pour nous souvenir de ces victimes au passé ou pour les accompagner dans notre prière, dans ce passage qu'elles vivent vers l'éternité de Dieu? Saint Jean l'a testé dans la première lecture, parce qu'ils ont aimé. Nous savons qu'ils sont passés de la mort à la vie. Par une série d'images, une place préparée, une demeure accueillante, une table dressée, Jésus évoque l'accueil réservé à ceux et celles qui, de quelque façon que ce soit, arrivent au terme de leur existence humaine. Voilà bien la source de l'espérance que, comme chrétiens, nous voulons témoigner au cœur de notre monde. La place que Jésus nous prépare se construit petit à petit dans un chemin de vie qui est différent pour chacun. Un chemin de vie où nous sommes encore engagés, nous qui faisons mémoire des victimes. La réalité de la mort à laquelle nous sommes tous confrontés est un défi qu'on ne peut durablement reporter. Le chrétien, sans avoir toutes les réponses, est invité à prendre le beau risque de la foi. La vie d'un chrétien n'est pas une assurance tout risque. Elle comprend ces moments d'hésitation, de doute, de retard, de lenteur. Mais elle est habitée par la certitude que l'amour est plus fort que la mort. Ce qui peut vraiment transformer nos sociétés, c'est bien cet amour, cette force de vie qui seule peut changer le cœur des hommes. L'amour de Dieu est plus grand que notre cœur, disait encore Saint Jean. Il est plus grand que nos faiblesses, que nos limites, que nos fautes. Il est la seule force, le seul levier pour soulever la lourdeur de l'existence humaine sur cette terre et pour nous faire les défenseurs de la vie et les serviteurs de la paix. L'amour est le seul rempart que nous puissions opposer à la barbarie inhumaine. Il nourrit notre désir de vivre ensemble, d'être attentif aux petits et aux pauvres pour qu'ils aient toute leur place dans une société équitable, plus solidaire, plus fraternel. L'amour est une force capable d'ouvrir le cœur de tout homme et de toute femme à l'espérance d'être regardé, respecté et aimé par-delà la mort. L'essentiel de la mission de l'Église en ce monde est bien d'être témoin de ce regard de Dieu sur toute créature humaine, de ce regard que le Christ pose sur notre humanité. La mission de l'Église est d'être la main tendue du Christ vers tous ceux et celles qui sont abandonnés, rejetés, désespérés. C'est ce que les chrétiens s'efforceront de vivre de façon plus intense durant l'année jubilaire de la miséricorde à laquelle le pape François nous invite. Les mots qu'il prononçait lors de la dernière fête de Noël restent d'une brûlante actualité pour nous mobiliser. Combien le monde a besoin de tendresse aujourd'hui, patience de Dieu, proximité de Dieu, tendresse